à voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Bernard Pivot s'entretient avec Robert Mallet. Quatrième entretien.
Bernard Pivot, je ne peux pas dire que vous vous flattiez de n'être ni écrivain ni critique, mais en tout cas, vous le dites et même le proclamez et contestez ceux qui disent le contraire. Mais ce que vous ne pouvez pas contester, c'est votre sens du langage et votre goût des mots.
Alors ça, oui. Ça, j'ai toujours aimé les mots. Et quand j'étais enfant, je n'étais pas un grand lecteur et pourtant j'aimais les mots. Je me souviens très bien de mes... J'avais 8 ans ou 9 ans, je lisais les fables de La Fontaine et je consultais le dictionnaire qui était à ma disposition pour connaître le sens des mots. J'ai passé par exemple des vacances, je me souviens très bien, ça
à
aussi.
À compulser un dictionnaire.
À lire le Petit Larousse. Je prenais une lettre et je commençais et je m'emplissait le cœur et la tête de mots qui sonnaient, qui chantaient en moi. Je faisais des fiches sur des mots rares. Et j'ai continué ça d'ailleurs pendant très 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 longtemps. Parfois, je notais sur une feuille volante un mot que je lisais dans le journal et qui me paraissait beau ou qui me paraissait obscur. Et je voulais en connaître le sens ou je voulais en épuiser la beauté. Donc ce goût des mots ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui encore, ce que j'aime dans un livre, c'est m'arrêter sur un mot, par exemple. Non pas sur les mots très techniques ou les mots très prétentieux, très rares, qu'on ne rencontre que dans Larousse en 10 volumes. Non, simplement souvent un mot ancien.
Mais Beaujolais, par exemple.
Ah ben Beaujolais,
vous avez analysé le mot Beaujolais, enfin, son étymologie.
Oui, mais enfin ça parce que j'étais obligé dans un livre. Non,
mais Beaujolais, vous avez très bien montré qu'il y avait la jovialité, la beauté.
Oui.
Dans ce mot.
Oui, mais c'est vrai, trouver ce qu'un mot cache par sa signification, mais aussi par son étymologie. Il y a un mot qui est très joli de Bernard Franck sur l'étymologie. Il dit l'étymologie, cette femme dont on remonte les jupes. Et c'est assez vrai, c'est assez juste. L'étymologie, c'est une manière
de... Ça veut dire la science du vrai, d'ailleurs.
C'est
étymologiquement, l'étymologie veut dire cela.
C'est surtout la science du cachet.
Oui.
Donc, ce goût des mots ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, j'ai à côté de moi tous les dictionnaires à ma portée. J'adore, par exemple, lire des ouvrages, des dictionnaires que publie Larousse ou Hachette sur des mots obsolètes, sur des...
Le mot obsolète, il est beau.
C'est très beau. C'est un très joli mot. Sur des mots qui ont vieilli ou sur des mots... Sur
l'argot aussi,
les mots nouveaux, les mots argotiques. J'adore lire ce genre d'ouvrage. Donc ça n'est pas pour rien, au fond, que je me suis trouvé un jour propulsé à la tête d'une dictée.
Mais alors comment est-ce que cela s'est produit? Par quel concours de circonstances? C'est encore la chance, le hasard comme...
Toujours la chance,
elle ne vous a pas quitté.
Elle ne m'a jamais quitté. Il y avait des concours d'orthographe en Belgique, mais à l'échelon local. Et un jour, nous en avions connaissance. J'avais fait une interview de Grévis. Quelques mois avant sa mort, il m'avait parlé de ses concours d'orthographe. Et puis un jour, une femme, Micheline Semant, qui travaille avec moi à ces championnats, était venue me dire « Pourquoi, au fond, vous ne feriez pas aussi des concours d'orthographe ?» On en avait vaguement l'idée. Alors j'ai dit « Au fond, pourquoi pas ?» J'ai longtemps hésité parce que je me suis dit « La dictée, c'est quand même quelque chose d'un peu vieillot. » En mai 68, on avait condamné la dictée, qui était un élément de torture sur les...
Oui, mais c'était le moment où certains grands esprits comme Roland Barthes disaient « Le langage est fasciste. »
Oui. Bon,
nous sommes tous fascistes. Alors.
J'ai longtemps hésité. Est-ce qu'on allait faire cette dictée ou pas? Puis un jour, je me suis décidé « Oui, allez, faisons une dictée. » Ça a été la première année. C'était en 84, je crois, avec une radio. Et c'était RTL. J'allais aller voir Raymond Castan, dont je savais le goût pour les mots, pour l'humour. Et il m'avait donné immédiatement son accord. Et puis j'avais tiré la sonnette du Crédit Agricole, parce que pour organiser ça, je me rendais compte qu'il faut de l'argent. Il faut aussi une organisation qui soit implantée dans tout le pays. Et puis, à ma surprise, ça a été les championnats d'orthographe ont connu un succès formidable, non seulement auprès des gens d'un certain âge à qui la dictée rappelait des bons souvenirs si anciens de l'école primaire et de l'école secondaire, mais aussi auprès des jeunes. Et ces jeunes qu'on disait traumatisés par les dictées se sont inscrits en masse pour concourir au championnat d'orthographe. Et alors ces championnats ont connu un succès de plus en plus prodigieux. Et vous savez que le couronnement en aura lieu l'année prochaine, puisque nous réunirons tous les champions de France, les champions étrangers, les champions de 125 pays à l'ONU en avril prochain. Et nous ferons, je ferai pour la dernière fois la dictée à ces champions venus du monde entier dans la grande salle de l'ONU à New York. Il y aura là des Péruviens, des Américains, des Japonais, des Coréens, des Français, des Belges, des Canadiens. Et il y aura les champions de tous ces pays et je leur ferai une dictée. Ça va être transmis
c'est
dans la plupart
allez,
de ces pays.
C'est vous qui allez faire le maître, là, qui allez lire le texte.
Et vous vous rendez compte, à la grande tribune de l'ONU, ça va être fantastique, ça va être extraordinaire. Et c'est vrai que c'est... je pense que cette dictée aura contribué à...
Aura un effet pédagogique.
Alors,
la pédagogie.
J'aurais été un mauvais professeur, j'aurais été un mauvais instituteur, parce que je n'aurais pas eu la patience vis-à-vis de garçons et de filles devant moi à leur enseigner, pas même le français ou la grammaire. Il n'empêche que je crois que le bon journaliste est quand même quelque part un pédagogue.
Il est un informateur.
Il y a en lui la volonté d'informer.
Et de communiquer.
Et dans le cas des championnats d'orthographe, ça va un peu plus loin puisqu'il y a la volonté de dire voici comment s'écrivent les mots, voici, au fond, je suis devenu une sorte d'instituteur à l'échelon national pour l'orthographe.
Il y a un des plus beaux mots de la langue aussi, instituteur, celui qui institue l'homme. Mais alors. Alors Pivot, je voudrais vous poser une question. Quelle a été votre attitude vis-à-vis de la réforme de la langue, cette réforme de l'orthographe, justement, précisément des accentuations? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, j'ai d'abord fait partie de la commission de réforme qui a été instituée. J'y ai travaillé. J'ai été d'ailleurs l'un des plus assidus. Cette commission était présidée par Maurice Druon. Et c'est vrai que j'étais partisan de mettre un peu d'ordre dans l'orthographe de certains mots. Par exemple, c'est vrai, pourquoi continuer d'écrire chariot avec un R quand charrette en a deux? Pourquoi continuer de dire des scénarii? Partisan d'un scénario, des scénarios, de franciser les mots étrangers. Donc j'étais partisan de mettre un peu d'ordre dans certaines anomalies, bizarreries, incongruités de la langue française. Donc vraiment, au départ, j'étais pour ça. Et cette commission a été instituée pour cela. Mais très vite, elle est allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle, d'un seul coup, elle s'en est pris à l'accent circonflexe,
Au
trait d'union, etc. Donc là, j'ai été moins d'accord. À la fin, dans les réunions, notamment dans la dernière réunion, je suis entré en conflit ouvert avec Maurice Druon, qui présidait cette réunion. Et je leur ai dit, d'ailleurs, ils s'en souviennent tous, je leur ai dit, vous allez trop loin. Et votre réforme va être rejetée en bloc. Au lieu d'apporter quelques modifications de bon sens à l'orthographe et à la langue française, comme vous voulez réformer en profondeur, eh bien cette réforme sera rejetée, et y compris toutes les réformes de bon sens qui ont été adoptées par la Commission. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur l'accent circonflexe, les gens se sont insurgés donc contre certaines de ces réformes, et c'est l'eau et le bébé qui ont été rejetés. Oui. Parce que cette commission a voulu être maximaliste, elle est allée trop loin, révolte des écrivains, des journalistes, y compris d'écrivains de gauche et pourtant amis de Michel Rocard qui, lui, avait diligenté cette réforme. Et donc, elle a été rejetée en bloc, alors qu'il me semble que certaines réformes préconisées étaient des réformes de
alors
bon sens.
Alors quel va être le destin de cette réforme?
Elle est morte, elle est finie, on n'en parle plus.
Elle n'était pas excessive, cette réforme, je ne le pense pas. Mais peut-être a-t-elle été mal annoncée, mal exprimée. Je ne pense pas qu'il faille conserver parfois toutes ces anomalies. Il faut rendre les choses plus générales et rendre plus facile d'accès au moment où on veut qu'une langue continue son destin. Mais peut-être que j'ai tort aussi de penser cela. Ce qui me navre, c'est que finalement, le minimum que vous souhaitiez voir s'accomplir a été balayé en même temps que le reste.
Mais c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes.
Il ne reste plus rien.
Mais non, il ne reste plus rien, puisque, et j'en viens à l'explication de l'Académie, il fallait donc sauver la face de Maurice Druon, les académiciens s'étant insurgés contre lui, et pour sauver la face, l'Académie a accepté l'ensemble de la réforme en disant « mais de toute façon, on ne doit pas l'enseigner ». Alors ça veut donc dire qu'on l'a mise au réfrigérateur, on l'a acceptée, on l'a mise dans le freezer et on a dit on ne la sortira pas.
Mais alors est-ce que vous me permettez, pour apporter une petite diversion, de montrer combien vous aimez les mots? Et dans la vie, oh là là, vous avez écrit un requiem pour le latin. Et vous dites, c'est bien dommage parce que déjà on avait l'impression qu'on parlait deux langues, dont qu'on ne comprenait pas, mais qu'on savait chanter. Vous dites que vous chantiez le Tantum ergo sacramenteux, etc., mais que finalement le latin, vous ne le pigiez pas, mais que cela vous apportait une sorte d'exaltation. Incantatoire.
J'en profite pour vous dire, c'est un des regrets de ma vie. Quand mes parents ont choisi un collège pour m'y mettre pensionnaire, ils avaient le choix entre un collège où l'on enseignait le latin et le grec et un autre où on enseignait plutôt les mathématiques, la physique et la chimie, et ils m'ont collé dans le second. J'aurais préféré être dans le premier, c'est évident.
Oui, oui, oui. Alors, vous parlez du latin, je ne dis pas que vous parlez latin, vous parlez du latin très bien. Et alors, vous dites, seul le mot « amen » est resté, malgré la réforme. Là aussi, il y a eu une réforme, on ne peut pas dire de l'orthographe, mais du langage, hein, puisque la nouvelle Église a voulu faire passer le message dans la langue française, ce qui lui fait perdre une partie de son mystère nécessaire, mais ce qui le rend tout de même plus accessible. Alors, vous dites « seul, amen », dont la traduction était connue de tous, « seul le joyeux, le bref, le sonore, amen, par quoi l'on savait les prières terminées, échappait à l'obscurantiste massacre. » Amen a toujours paru sympathique. Il n'avait pas de secret. Il était tombé dans le domaine public. Il était l'ami de tout le monde. Sur le papier, il avait une bonne tête, il était facile à prononcer, et dans les airs, il vibrait sans manière. Dépouillé de tout mystère religieux ou linguistique, ce sacré « amen » est devenu si populaire qu'on l'emploie maintenant en conclusion des prières récitées en français, de préférence à « ainsi soit-il », qui est un peu long et guindé. Après que les générations de 20 siècles lui eurent confié les espoirs d'âmes innombrables, il était bien qu'Amen fut naturalisé français par la vox populi. Il appartenait à César et nous ne le rendrons qu'à Dieu. C'est amusant.
Oui, je ne sais pas si je réécrirai tout ça aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que Amen est resté quand même, est tombé dans le domaine public. C'est vrai, regardez à la publicité, il y a une publicité pour un camembert. On voit des quelques moines qui s'agitent, entre une cloche et ils font une prière. Et une prière en français, ils se terminent par Amen. C'est vrai que c'est un mot, finalement, c'est le seul mot latin qui va rester, plus quelques... Enfin, à part quelques mots... C'est-à-dire que ce qui est différent avec Amen, c'est qu'on sait qu'il est latin. Alors que d'autres mots latins sont devenus des mots français.
Mais la vie des langues est une chose extraordinaire, parce que finalement, les grammaires et les dictionnaires ne font que refléter ce que l'usage a créé. Et une langue se fait sur le dénombrement, sur l'innombrabilité des fautes. Les fautes commises en série deviennent les nouvelles règles. Sans ça, nous parlerions latin en ce moment, et on ne dirait pas le portugais, l'espagnol, l'italien, le français, etc., les langues romanes. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que les langues doivent être figées ou doivent-elles évoluer?
Elles doivent évoluer, c'est évident.
Mais dans le langage, parler, elles ne demandent pas notre avis. Mais je parle de l'écriture, de l'homme qui s'intéresse à l'écriture.
Non, mais pendant que nous parlons, le français évolue. Bien entendu qu'il évolue. Moi-même, vous-même, à notre insu, nous avons évolué dans notre manière d'écrire, dans notre manière de choisir les mots. Une langue qui n'évolue pas, elle meurt automatiquement.
Oui, mais alors, quelle est la langue qui n'évolue pas? Il faut qu'elle soit prise en compte.
Quelle est la langue qui n'évolue pas aujourd'hui? C'est le latin. Mais c'est une langue morte. Oui. Mais les règles évoluent à notre insu.
Mais c'est bien ce que je dis.
Je vais vous donner un exemple. Il y a encore 15 ans ou 20 ans, vous écriviez, par exemple, des fêtes impromptues. Eh bien, on devait écrire impromptu invariable. Le mot impromptu était considéré comme un adverbe. On devait donc impromptu u. Aujourd'hui, consulter les dictionnaires, on ne vous donne plus ce genre de remarques.
Non, mais on dit quand même, je suis venu impromptu.
Oui. Non, mais vous vous rendez compte, ça voulait dire, vous écriviez des fêtes impromptues u.
Oui, mais je comprends bien.
Vous imaginez un jeune homme, vous lui écrivez des fêtes impromptues u. Il est effaré, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je trouve que, à notre insu, il n'y a pas, l'académie n'a pas légiféré, aucune commission n'est intervenue, et ce U est tombé en désuétude, à notre insu, sans que nous le sachions. Et aujourd'hui, on écrit des fêtes impromptues UES.
Et
c'est très bien.
Oui.
Et la langue a évolué sans que nous le sachions. Personne ne s'en est rendu compte. Et c'est très bien ainsi.
Non, mais alors, on ne sait pas comment se font ces évolutions, elles ne sont pas forcément les meilleures. Mais peut-être que dans
toutes les évolutions ne sont pas heureuses. Il y en a qui sont très malheureuses, bien entendu.
Mais vous êtes plutôt conservateur pour le langage, avec cependant l'ouverture à l'innovation.
Ah, j'aime bien employer des mots quand ils sont à la mode. Non, pas tout à fait. J'aime bien à lire la revue que je dirige. Nous avons fait plusieurs fois des numéros spéciaux sur les mots à la mode, sur les mots nouveaux. J'aime bien certains mots qui me plaisent beaucoup. Alors, mais oui. Je fais le choix, je fais le tri. Je suis libre de dire tel mot me plaît, tel mot ne me plaît pas. C'est ça que je trouve intéressant dans notre amour des mots, dans notre combat avec les mots aussi. J'aime ce mot-ci et puis je n'aime pas celui-là. Et puis vous me direz le contraire. Moi, j'aime celui-ci et j'aime pas celui-là. Et c'est ainsi qu'une langue se forme, évolue. Il y a certains mots désuets que j'aime bien employer et puis vous en employez d'autres. Et puis il y a certains mots qui me font horreur parce que, notamment certains mots technocratiques, américains qui me font horreur.
Positionner, par exemple.
Positionner, effectivement, c'est un mot que je n'emploierai pas. Je ne vais pas dire positiver comme certains magasins nous y engagent.
Est-ce qu'on leur dit émouvoir et émotionner, ça n'est pas pareil.
Et moi, je préfère dire émouvoir, je ne dis pas émotionner. Mais...
On dit révolter, révolutionner.
Oui, mais chacun...
Je pense que les
votre
créations, même intellectuelles, qui ne sont pas mauvaises.
Mais
faites chacun fait sa démarche.
Mais non, chacun fait son marché. C'est ouais. Je reviens à l'épicerie de mes parents, vous avez tous les mots, ils sont à votre disposition. Choisissez ceux qui vous plaisent. Et puis ceux qui ne vous plaisent pas, vous les laissez tomber. Voilà.
Oui, mais
soyez libre.
Quand vous étiez dans la commission de réforme, vous avez été plutôt pour une réforme pas trop poussée.
Oui, mais j'étais quand même pour une réforme.
Oui.
Alors que certains étaient opposés à toute réforme.
Oui.
Moi, j'étais pour une certaine réforme. Pas pour faire n'importe quoi avec les accents circonflexes.
Oui, il faut espérer.
Mais non, ce qu'on n'a pas dit, Robert Mallet. Alors là, le poète que vous êtes devrait y être sensible à ceci. C'est que supprimer l'accent circonflexe, c'est attenter à la poésie de certains mots. C'est-à-dire que vous.
C'est visuel.
C'est visuel.
Ah, oui.
Vous retirez.
Mais la langue est d'abord auditive.
Oui, mais elle est aussi visuelle. Et vous retirez de la beauté de certains mots qui ont un accent circonflexe. Et si vous leur retirez cet accent circonflexe, eh bien, ils deviennent moins beaux, c'est évident.
C'est nous, c'est toujours nous, ceux de la transition, qui souffrons des évolutions. Mais les jeunes, on leur dit c'est comme ça, ben, ils apprennent ça comme ça.
Ah oui, mais enfin, vous les tenez pour rien du tout.
Non, mais pas du tout. Je ne les tiens pas pour rien du tout. Je les tiens pour des matières qui se modèlent, des matières intelligentes.
Non, mais vous dites, les enfants, on leur dit écrivez comme ça, et puis ils écrivent comme
mais
ça.
Oui, bien sûr, mais vous avez appris aussi à écrire comme ça, parce qu'avec un accent circonflexe, vous auriez dit qu'il y avait un accent aigu, vous l'auriez accepté. Je remarque, Bernard Pivot, que vous avez, vis-à-vis du langage, le point de vue, c'est le cas de le dire, du lecteur. Je crois que le mot « lire » est un mot très important pour vous. Vous avez reconnu que vous étiez un lecteur public, que pour faire le métier que vous pratiquiez, celui de courriériste à la télévision, il fallait d'abord lire. Et vous avez été le fondateur d'une revue qui a obtenu un grand succès, qui s'appelle « Lire ». Alors comment est née cette revue ?
Toujours par chance.
Est-ce que c'est dans le sillage, dans le sillon d'apostrophe ?
Non. Le projet de créer « Lire » a précédé la création d'apostrophe. Là aussi, c'est toujours la chance. Je quitte le Figaro, où je suis chef du service littéraire, parce que je m'engueule avec Jean d'Ormesson, et avec qui, depuis, j'ai noué des...
Puisque vous l'avez même remercié de vous avoir permis de le quitter.
Voilà. Donc, je claque la porte du Figaro. Le soir même, Le Monde annonce, en dernière page, en quatre lignes, que j'ai quitté le Figaro. Et ce soir même là, Jean-Louis Servan-Schreiber m'appelle et me dit « Je vois que vous avez quitté le Figaro, je voudrais faire quelque chose avec vous, j'ai quelques projets. Déjeunons. » On a déjeuné et nous sommes convenus de faire un hebdomadaire ou un mensuel qui se rapporterait au livre. Et c'est ainsi que un an après, Lire a été lancé.
Et vous en êtes le rédacteur en chef ou le directeur ?
J'en ai toujours été le rédacteur en chef ou directeur de la rédaction, comme vous voudrez.
Mais alors ça doit vous prendre beaucoup de temps.
Ça me prend moins de temps que ce que je faisais avec Apostrophe ou ce que je fais avec Bouillon de Culture. Non, parce que là, il y a une équipe. Autant Apostrophe et Bouillon de Culture, ce sont des émissions quand même artisanales où je m'implique complètement. Autant là, il y a une rédaction, pas très importante, mais une rédaction avec, ça a été longtemps Pierre Boncel, maintenant c'est Jean-Maurice de Montrémy, des adjoints comme rédacteur en chef et puis des rédacteurs. Là, c'est un peu différent. Et puis la formule de Lire a été une formule dont le lancement a été difficile, certain, et maintenant, c'est une formule qui est au point.
Donc, vous tirez à 150 000, je crois.
Et nous avons 100 000 abonnés, et nous vendons 45 000, 50 000 en kiosque et maison de la presse. Oui. Donc voilà, la vente est de 145 000.
C'est donc un très beau succès. Alors là encore, vous aidez à la critique, mais vous n'êtes pas critique.
Là non
Alors,
plus.
Je vais vous demander maintenant que vous avez lancé une nouvelle émission, Bouillon de Culture. J'ai l'impression quand même que ce qui est le plus réussi dans Bouillon de culture, c'est lorsque vous retrouvez le ton d'apostrophe.
Ben, le ton d'apostrophe, c'est le mien. C'est lorsque je ne peux pas être différent.
Non, mais quand vous avez fait intervenir au début des jeunes qui... Les bons mots, des choses, ça n'était pas très réussi.
Oui, non, mais, oui, ça, quand, mais ça, je l'ai abandonné. Oui, j'ai abandonné.
C'était artificiel. Oui, oui. Et au contraire, maintenant, on a l'impression que vous êtes tout à fait à l'aise, mais on retrouve un peu...
Oui, mais j'ai procédé dans cette émission... comme un journaliste ou un écrivain doit procéder. C'est-à-dire, j'ai fait un texte qui était trop long, qui était trop touffu, et au fil des semaines, j'en ai retiré les adverbes et les adjectifs inutiles, les paragraphes en trop, et maintenant, je suis arrivé à une émission plus épurée, plus rigoureuse, où, effectivement, je suis plus moi-même.
Alors, parlant d'apostrophe, répondre à une question de Pernora, vous avez dit, eh bien oui, c'est vrai, c'est le méli-mélo, c'est le mot que vous employez, d'apostrophe, qui a aussi fait son succès. Et Bouillon de culture donne encore beaucoup plus l'impression d'un méli-mélo, mais au sens favorable du terme, puisque, en effet, vous accueillez toutes les formes d'art. Oui. Alors, pouvez-vous me dire comment vous vous reposez de la satiété que vous avez procurée, apostrophe, en faisant Bouillon de culture ?
Bien, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'au lieu de pas ici de rester 10, 12, 15 heures de lire à côté de mon chat, ben maintenant je suis rarement ici puisque je vais souvent deux fois au cinéma par jour, je vais à l'opéra ou au théâtre le soir, je lis aussi quand même un peu, je vais voir des expositions, donc je suis redevenu le courriériste que j'étais au départ, mais simplement c'est un courriériste qui n'est pas seulement engagé dans le métier de lire, mais un courriériste qui est engagé dans le métier de regarder, de voir, d'écouter, et au fond je redeviens ce courriériste que j'ai été quand il y a 30 ans, celui qui court Paris et qui va voir des spectacles.
Oui, alors j'ai l'impression que votre Bouillon de culture, justement, satisfait un public peut-être pas plus nombreux, mais différent. Et j'ai l'impression aussi que cette formule que vous avez lancée, à travers votre personnalité, est une forme d'humanisme moderne. Je pense que ce mot, vous allez le récuser aussi.
Je le récuse immédiatement.
Bien sûr, je ne suis pas un humaniste, je ne suis pas... Vous n'êtes ni écrivain, ni critique, ni humaniste.
Je suis journaliste, je vous l'ai dit.
Un journaliste peut être humaniste.
Bien sûr, mais enfin, je ne veux pas...
Vous allez vous attirer beaucoup de réprobation de la part des journalistes qui se croient précisément les représentants de l'humanisme contemporain.
Mais je ne dis pas... Non, mais parce que ça fait... Écoutez, ça fait un peu cuculapraline, mon cher Robert Mallet, de dire que je suis un journaliste humaniste.
Ah non, mais c'est pas vous qui... Non, mais ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi.
Oui. Mais bien sûr qu'on est tous un peu humanistes. Si on n'est pas humaniste, alors à quoi servons-nous sur cette planète? Bien sûr qu'on est un peu... Mais on ne va pas se proclamer humaniste.
Non, mais vous ne vous proclamez pas. Je dis que c'est une forme moderne de l'humanisme.
Mais non, j'ai voulu simplement retrouver ce qu'étaient les hebdomadaires que vous avez bien connus, qui s'appelaient Le Figaro littéraire, Art et spectacle, Les lettres françaises et Nouvelles littéraires, où...
Le spectateur.
Où chaque semaine, on vous présentait des livres, des pièces de théâtre, des expositions, la mode, la gastronomie. Donc j'ai voulu, dans une émission un peu méli-mélo, comme vous venez justement de le dire...
Selon vos termes.
Seul le plaisir multiculturel, c'est-à-dire sauter, comme on sautait dans ces hebdomadaires, comme on sautait d'une page à une autre, sauter d'une rubrique sur le cinéma, une rubrique sur le théâtre, un livre, plus un restaurant gastronomique. Voilà, c'est cette diversité de la culture, cette diversité de la curiosité culturelle, de la culturiosité, néologisme que j'ai créé à cette occasion. J'aime ce mot, culturiosité, j'ai voulu retrouver donc ce sens de la fête et de la curiosité multiculturelle.
Oui, et parce que vous aviez tout de même éprouvé, ce qui est tout à fait normal, une certaine lassitude au bout de 15 années.
J'étais là de lire.
Ouais. Regardez comme il est difficile, vous étiez là, mais vous êtes toujours là. Ouais, oui. Et alors, à l'âge que vous avez, j'ai parlé de 50 années vigoureuses, très vigoureuses. Moi qui vous ai connu à 20 ans, vous n'avez guère changé, hein. Vous avez encore cette chance, vous avez beaucoup de chance dans la vie, mais vous avez celle-là. Alors vous avez tout de même fondé un foyer.
Oui, ben oui.
Oui, vous êtes un époux, vous êtes un père de famille.
Oui, bien sûr.
Ça, je sais que vous n'aimez pas beaucoup qu'on parle de cela, mais c'est pour donner tout de même de vous un portrait complet. Vous êtes marié à quel moment dans votre vie ?
Oh, je me suis marié assez jeune, je devais avoir 24 ou 25 ans, donc c'est assez jeune. Et je me suis marié avec une journaliste que j'ai rencontrée au centre de formation des journalistes. Vous voyez, c'est toujours le hasard, la chance. Et voilà. Oui. Puis j'ai eu deux enfants.
Et alors, sans dévoiler des choses secrètes, je crois que votre épouse est à la tête d'un très grand...
Elle est journaliste.
Énorme de presse.
Non, mais c'est ça qui est amusant, c'est que ma femme est la journaliste de la presse du cœur.
Elle travaille depuis 25 ans. Elle est une technicienne de la presse, beaucoup plus que moi. Et donc, elle dirige des journaux qui appartiennent au groupe des éditions mondiales. Un groupe qui, vous avez connu Chino Del Duca, été l'empereur de la presse du cœur. Voilà. Nous sommes journalistes l'un et l'autre. C'est un mot qui nous va bien l'un et à l'autre. Mais nous ne faisons effectivement, d'une certaine manière, pas tout à fait le même métier.
Si bien que jamais vous ne vous êtes croisés dans vos activités.
Non, jamais. Mais heureusement, nous nous croisons dans cet appartement.
Oui, alors ce croisement est arrivé à une progéniture.
Voilà, si vous voulez.
Alors, quelle est cette progéniture?
J'ai eu deux filles.
Et qui ont quel âge?
Et maintenant qu'ils sont grandes. Une a 30 ans et l'autre 25 ans.
Alors, vous vouliez être grand-père.
Je pourrais être grand-père, mais je ne le suis pas.
Oui. Est-ce que l'impression que vous le seriez vous donnerait à vieillir? Ou au contraire, vous rajeunirez d'avoir un petit enfant qui vous ferait croire que vous êtes encore père?
Je ne sais pas. Je saurai quand je serai grand-père. Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes deux filles ont été élevées de la même façon. Et l'une adore lire et l'autre pas. Voilà. L'une est une vraiment enragée de la lecture. Elle lit beaucoup pour son plaisir, vraiment. Elle est toujours avec un livre.
Est son métier?
Et elle travaille dans l'édition. Mais c'était pas sa vocation au départ, mais elle s'est aperçue que le livre était vraiment sa vie.
Et l'autre?
Et l'autre, pas du tout. L'autre ne lit pas. L'autre n'a aucun rapport avec ni le livre, ni l'édition. Alors c'est pour cela que depuis, je me demande, est-ce que nous ne transmettons pas un jeune de la lecture? Mais vous voyez, l'abondance de livres n'a pas détourné l'une de mes filles de la lecture, et peut-être que l'abondance de livres a repoussé l'autre loin des livres. Voilà.
Ce qui apparaît beaucoup, Bernard Pivot, dans tout ce que vous avez dit, c'est votre sens et votre bon sens sans prétention à l'intelligence. C'est une forme de grande intelligence que de douter de ses qualités. Et je pense que vous allez dans cette voie d'une activité surprenante. Vous trouvez que vous avez fait beaucoup de choses, avec constamment le sentiment que vous n'avez pas mérité tellement cela et que vous avez été, non pas récompensé, mais que vous avez eu de la chance. Le mot « chance » est un des mots que vous avez le plus prononcé dans les conversations que nous avons ensemble. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même que pour avoir de la chance, il faut avoir des qualités qui font que lorsque la chance se présente, on peut en profiter?
Ben, c'est l'évidence. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai eu dans ma vie, j'espère que ça continuera, une chance assez fabuleuse. C'est-à-dire chaque fois, ce n'est pas moi qui ai décidé de mon avenir, ce sont des gens qui m'ont apporté les bonnes idées. Donc, merci la chance. Mais dès que j'avais accepté un projet, alors je m'employais avec jubilation, avec férocité à réussir. Là, je deviens quelqu'un qui veut absolument prouver qu'on a eu raison de lui faire confiance. Et ça a été ainsi pendant toute ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivé à Paris, je suis entré au centre de formation des journalistes, je n'ai plus été donc le jeune homme que je vous ai raconté, jeune homme un peu léger, un peu rêveur, qui se laissait vivre. D'un seul coup, je me suis dit, ben, si on me fait confiance, eh bien, il faut que je mérite cette confiance. Et à ce moment-là, j'ai été tout à fait l'homme qui voulait réussir la tâche qu'on lui avait confiée. Avec... Malheureusement, je le dis très franchement, avec des moyens limités, je trouve que moi, peut-être, alors il y a peut-être des gens qui ça va faire rire, mais je trouve que la nature n'a pas été très généreuse avec moi. Je trouve elle ne m'a pas donné une mémoire fabuleuse, elle ne m'a pas donné le don des langues, elle ne m'a pas donné un talent d'écriture exceptionnel, elle m'a pas et donc j'ai dû composer avec parfois.
Mais elle vous a donné la lucidité que vous avez.
Oh, oui, mais enfin, c'est pas avec la lucidité que vous réussissez.
C'est avec elle qu'on fait la plupart des choses.
Non, mais elle m'a donné le goût du travail. Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour compenser parfois un certain manque de qualité dans certains domaines, et puis pour aussi faire en sorte que la confiance qu'on avait placée en moi ne soit pas...
Pour mériter votre nom pivot. Le pivot, c'est la pièce verticale autour de laquelle tout s'agence, et qui fait tourner la machine.
Ben, c'était un peu ça, apostrophe. Hein. C'était...
Ah oui, vous avez été le pivot.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Bernard Pivot s'entretenait avec Robert Mallet. Réalisation Marie-André Arminot. Demain, cinquième et dernier entretien.